Alain Roux vous présente l'émission Dialogue entre Congolais.
Bonsoir, le président congolais Denis Sassou Nguesso juge, je cite, grave et sérieuse la présence et les conditions humanitaires de plus de 100 000 réfugiés congolais ayant fui les affrontements de Dongo. Il souhaite leur retour le plus vite possible en RDC. Qu'est-ce qui empêche le retour de ces réfugiés? Trois invités participent à cet échange. Jean-Marie Gapé-Monoko, député national élu de Kourou, dont Dongo est l'un des secteurs dans la province de l'Équateur. Il est avec moi dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, Jean-Marie Salé.
Simon Englebert Lubuku, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Également, Henri Thomas Lokondo, sénateur membre de la majorité présidentielle. Bonsoir, sénateur.
Bonsoir, cher ami.
Voilà, la réalisation me signale que Englebert Lubuku est également en ligne. Bonsoir, Simon Englebert Lubuku.
Bonsoir.
Vous également, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à réagir à cette émission, notamment qu'à Saint-Zéra de Dénionor, qui dit « Notre gouvernement aurait dû envoyer $1 million en Haïti et utiliser le reste aux besoins de ces Congolais en détresse. » Malonga Koubali de Bandundu-Ville dit « Le président Sassou Nguesso est sage, il a raison de veiller aussi à la sécurité de son pays. Il est urgent que le gouvernement fasse tout pour épargner ses compatriotes des prochaines expulsions dont on pourrait encore déplorer les conditions. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Des réfugiés de l'Équateur, on en compte près de 107 000 dans la région de la Likwala, au nord du Congo-Brazzaville, d'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Une situation que le président congolais Denis Sassou Nguesso juge grave et sérieuse, car le nombre de réfugiés dépasse celle de la population autochtone qui tourne autour de 100 000. Il a déclaré hier à l'agence France Presse à Addis Abeba en marge du 14e sommet de l'Union africaine. Denis Sassou Nguesso, qui juge par ailleurs épouvantable la situation humanitaire de ces réfugiés, souhaite leur retour le plus vite possible en RDC. Rappelons que ces réfugiés ont fui des violences interethniques qui ont secoué la province de l'Équateur entre octobre et décembre dernier. En réponse aux plaintes du président Sassou Nguesso, Lambert Mende, ministre de l'Information et porte-parole du gouvernement, a déclaré que le gouvernement de la RDC est aussi préoccupé que celui du Congo-Brazzaville. Il appelle une fois de plus ces Congolais de l'Équateur à rentrer dans leur milieu d'origine. Pour lui, ce retour s'impose pour la reconstruction de ce coin de la RDC. Lambert Mende l'a dit à Mimi Ngumba Mulongo.
Je pense que le président a évoqué le nombre massif de nos concitoyens qui sont là-bas et qui représentent un nombre plus élevé même que les autochtones, ce qui pose effectivement problème. Nous, nos raisons sont autres. C'est que nous avons déjà sécurisé les zones d'où sont partis ces concitoyens et que nous avons besoin simplement qu'ils rentrent chez eux pouvoir mieux les aider à se reconstruire dans leur milieu d'origine, parce que rester là-bas, c'est bien sûr facile pour certains, parce que de l'aide peut arriver, mais une aide qu'on reçoit et qui ne vous permet pas de vous reconstruire, pour nous, c'est quelque part moins intéressant qu'une aide à la reconstruction. Comme pays, nous préférons que Dongo, que tout cet espace-là puisse être reconstruit par ses habitants.
Voilà, Jean-Marie Gapé-Monoko, je rappelle que vous êtes député national élu de Kourou dans la province de l'Équateur, dont Dongo est l'un des secteurs. Pour commencer, comment vous avez reçu cet appel du président Sassou Nguesso?
D'abord, avant de commencer, sans doute, je vais remercier d'abord le gouvernement congolais en général et le président Denis Sassou Nguesso en particulier pour l'esprit d'hostilité combien louable que nous saluons. Sinon, parce que, dit-il, quand elle doit blesser, les autres vont compatir avec. Nous sommes tous le pays d'abord de la, les pays du centre de l'Afrique. Et effectivement, j'ai compris que nous sommes des pays frères dont les capitales sont les plus proches dans le monde. Et sincèrement, le Congo, la République du Congo a manifesté l'hospitalité à nos déplacés qui sont aujourd'hui, qui se trouvent maintenant dans les territoires de la République du Congo. Sincèrement, sont les critiques de fonder. C'est trop fondé et je vais commencer d'abord par vous parler et quelles sont les causes de déplacement de ces gens. Et d'abord, ça n'a pas commencé même en octobre. Ça a commencé le 31 mars. Le 31 mars avec les hostilités entre Mounzaya et Enyele. Et ensuite, les hostilités du 4 avril entre la population de Enyele qui avait attaqué la localité Mukando. Et en date du 31 mars et le 4 avril, la population de ces deux localités ont été vidées. La population a été vidée et s'est déplacée au Congo en face. Et pourquoi? Parce que, vous voyez, Dongo et les campements et les villes et qui sont en face et d'à peu près dans 35 et 4 ou 5 minutes de traversée. Et sans doute, il est vrai que son inquiétude est fondée. Parce que, à peine, j'ai eu le privilège d'être aussi membre de la délégation choisie par l'Assemblée nationale par les bureaux pour recevoir la délégation de nos collègues députés du Congo-Brazzaville et qui sont venus pour la même question. Ils se sont fait sur la matée. Et dans le sens que quand nos déplacés sont traversés, ils ont trouvé par exemple une école. Une école, ils occupaient l'école, même les églises. Il est vrai que la situation semble très difficile. Mais, qui sont les temps de se déplacer? Parce que se déplacer, nous avons cinq causes. La première cause, c'est quoi? Ce sont les hostilités de Mounzaya et Niélé qui ont facilité la traversée. Deuxième cause, c'est les attaques de la localité Niélé contre Mukando à la date du 4 avril. Et troisième cause, c'est les hostilités du 10 octobre. Ce sont les hostilités qui ont vidé la cité de Dongo. Et les gens qui espéraient peut-être, avec la Monique, avec l'attaque maintenant de la Monique à la date du 28 novembre 2009, ils le voient que la population s'est vidée encore dans la bataille. Cinquième cause, et la dernière, c'est quoi? Quand maintenant la force d'armée, c'est-à-dire la FARDC, est allée maintenant pour établir l'ordre, et ce qui était les pros-insurgés, et qui se croyaient invulnérables, et quand ils ont vu que les autres sont à peu de tomber parce qu'ils faisaient résistance, et les autres se sont vidés, c'est la raison qui fait qu'il y ait une rouée qui s'ajoute, c'est-à-dire le déplacement, la stratégie s'ajoute de jour au jour.
Voilà, vous permettez que je vous arrête à ce niveau. Le temps de donner la parole à Henri Thomas Lokondo, sénateur membre de la majorité présidentielle. Sénateur, comment vous avez reçu cet appel ou cette inquiétude du président Denis Sassou Nguesso?
Mais je le trouve justifié, comme l'a dit tout à l'heure le ministre Mende. C'est une situation effectivement grave pour le président Sassou. C'est embêtant pour lui, autant que pour nous. Vous savez, avoir une prison de plus de 67 000 personnes dans une petite province comme la Likwala, dans un petit pays comme le Congo-Brazzaville, crée toujours des problèmes de tous ordres. Problèmes économiques, sanitaires, sécuritaires, humanitaires, les gens passent. C'est lui, le président Sassou Nguesso, au finis, qui les assume tous ces problèmes-là. Mais nous sommes bien placés pour le comprendre, parce que bon, c'est comme j'ai fait notre cas en 94 à Goma, quand les réfugiés rwandais étaient entrés en milliers à Goma, ce qui à l'époque, on l'appelait, avait même fait déclarer à l'ONU que le Congo était une catastrophe humanitaire après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, mais nous avons les mêmes inquiétudes. Donc, nous sommes bien placés, comme je disais tout à l'heure, pour le comprendre. Mais la difficulté que nous avons, d'abord, c'est une difficulté d'ordre juridique. Comme vous le savez, il y a en droit international le principe, le droit international consacre le principe du retour volontaire de réfugiés. C'est notre difficulté avec lui, Sassou Nguesso, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Moi, je crois que vraiment il a du pain sur la planche, parce que c'est lui d'abord qui a la responsabilité, la fonction la plus importante, qui consiste à assurer la protection internationale des réfugiés. C'est-à-dire, c'est lui qui doit venir aux droits fondamentaux des réfugiés qui doivent être respectés au Congo là. Donc, ceci dit, moi je crois que Ce qui est important, ce n'est pas maintenant de mettre en relief la difficulté que nous avons sur le plan juridique comme sur le plan humanitaire ou économique, mais c'est de mettre en place une stratégie entre nous, le commissariat pour le réfugié, avec l'appui des autres partenaires du système des Nations Unies, pour voir concrètement ce que nous pouvons faire ensemble pour les aider au retour volontaire. Donc, cela suppose une mise en place, une coordination, et le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui dit c'est ce qu'il doit faire comme travail. Donc, fondamentalement, je dis que c'est une situation embêtante, mais la difficulté, exactement. Nous allons, comme le ministre l'a dit, le gouvernement a pris toutes les dispositions. J'avais suivi le ministre de l'Intérieur comme celui de la Défense qui était parti d'abord là-bas, les voir sur place, puis ils sont allés à Dongo. Bon, ils nous disent que la situation est redevenue calme, mais on ne peut pas forcer ces gens à venir. Vous savez, les gens qui ont connu des atrocités, mais qui ont besoin d'une. Qui ont une thérapeutique des troubles psychiques, psychosomatiques, doivent plutôt subir une opération psychologique, je dirais même psychothérapie, pour sécurité, parce que le problème de sécurité, comme le ministre de la vie, on l'a assuré, mais rentrer comme ça, sans qu'il soit préparé, je crois qu'il y a un travail à faire.
Sénateur, oui, merci sénateur. J'étais en train de chercher à vous interrompre, le temps de redonner la parole à Simon Englebert Luboukou, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Dites-nous, Simon Luboukou, dans quelles conditions vivent ces compatriotes qui sont de l'autre côté de Brazzaville?
Il faut dire que la situation est grave, comme vous le savez. Ces personnes vivent généralement dans des sites publics, dans des écoles, ou bien des lieux comme des réfugiés, parce qu'il faut savoir que il y a eu des réfugiés congolais de l'Équateur au Congo Bata dans la même région pratiquement. Ils sont rentrés soit dans les lieux où ils vivaient avant, de fuite.
Simon Englebert Luboukou.
Oui.
Excusez-moi de vous interrompre, la qualité de votre ligne n'est pas très bonne. Si vous êtes dans une salle, essayez de vous déplacer un tout petit peu le temps que cela s'éclaircisse pour mieux vous capter ici. Voilà, pendant que Simon Englebert Luboukou se déplace, nous allons directement aborder Jean-Marie Gatemonoko la question fondamentale. Finalement, pourquoi ces réfugiés ne rentrent-ils pas? L'honorable Henri Thomas Lokondo, le sénateur, a parlé, a dit qu'il fallait une opération psychologique. Cela suffit-il? Est-ce la seule raison?
En tout cas, merci beaucoup. Je suis de même avec le sénateur Henri Thomas Lokondo. Plus que les atrocités de Dongo n'ont pas été faciles, c'était quelque chose de compliqué, c'est difficile. Et la personne qui voyait par exemple sa femme, ses enfants, égorger tout cela, ce n'est pas petite chose, c'était compliqué. Maintenant, ils sont à Dongo. Et quand le ministre demande à la population de regagner Dongo, vous voyez, la population qui se trouve maintenant à Congo se pose la question. Il s'agit de quelle population? Pourquoi à Dongo les attaques de 10 octobre? Ce sont les insurgés, ce sont les Lobala qui avaient fait le soulèvement contre la population non originaire de Lobala. Alors ces gens ont pris tangente, ils ont traversé toutes les rives. Et quand les militaires sont allés maintenant rétablir l'ordre, et les assaillants, et les victimes se trouvent aujourd'hui en face. Est-ce que le gouvernement congolais a pris des précautions nécessaires pour recevoir et les victimes et les assaillants à Dongo? Est-ce que les dispositions sont prises? Est-ce qu'une cellule psychologique, comme l'a dit le sénateur Lokondo, s'est préparée? Moi, je crois, à mon humble avis, que la notabilité, que le gouvernement s'associe avec la notabilité du coin, avec les chefs religieux, et s'il faut dirigeanter une cellule psychologique pour aller maintenant commencer à préparer la psychologie de ces gens dans l'autre rive avant de traverser. Pour aujourd'hui, c'est-à-dire les ennemis de l'autre rive se trouvent aujourd'hui affairés dans l'autre rive. Mais pour les faire venir maintenant à Dongo, je me pose la question de ces journalistes, comme l'a dit le sénateur Lokondo. Une victime qui a perdu sa femme, ses enfants, et celui qui a causé maintenant du tort, on les invite maintenant de regagner Dongo. La personne qui a été victime, il se trouve sans maison, sans abri, sous les intempéries. L'insurgé se trouve dans sa maison. Et ce n'est pas une façon d'exciter encore la vengeance. Les victimes. Moi, je crois que le gouvernement doit prendre au sérieux le problème. Le gouvernement doit d'abord équiper. Le gouvernement d'abord doit rendre sain la cité, saine, la cité de Dongo.
Mais le ministre Mende a dit que toutes les conditions étaient déjà réunies.
Les conditions ne sont pas réunies, je vous dis la vérité. Je sais qu'il est le porte-parole du gouvernement. Quand on dit que les conditions sont réunies, qu'est-ce que cela signifie? Aujourd'hui, laissez-moi vous confirmer que quand il déclarait que le secteur de Dongo, aujourd'hui il n'y a pas de sujet, c'est bien. Je dis oui parce que nos militaires ont fait un travail digne de son nom. Aujourd'hui, les insurgés ne sont plus à Dongo. Mais qu'on est en train de rester maintenant la cité de Dongo. Quand on parle de Dongo, on voit seulement la cité de Dongo, mais on ne voit pas tous les secteurs. Puisque le secteur de Dongo est composé de 6 groupements. Et le pôle Obala tend est complètement vidé. Le groupement Obala Poko est complètement vidé. Et quand on parle du groupement, on voit presque tous les 6 groupements. Et le groupement Obala Sud est complètement vidé. Et tous les villages sont vidés. Mais quand on demande à la population de les gagner, eh bien, c'est ici de quelle population? Parce que les pros insurgés se trouvent dans l'autre rive. Les victimes qui avaient plus tangente, qui avaient fui maintenant, ces insurgés se trouvent aussi dans l'autre rive. Alors moi, je croyais qu'une cellule psychologique qu'on a soulevée, le Condo, le sénateur le Condo, doit être mis sur pied avec la notabilité, les notables du coin qui nous sommes. Et si on est allé préparer maintenant la psychologie de ces gens pour qu'il n'y ait pas vengeance.
Sénateur Thomas Lokondo, vous avez parlé du problème psychologique qui empêche notamment ces réfugiés de rentrer, mais est-ce le seul problème?
Mais moi je crois, fondamentalement, je crois que c'est le problème le plus important. Puisque les réfugiés ne sont pas encore de retour, donc on ne peut pas dans un premier temps parler d'autres problèmes logistiques, infrastructures, tout ce que vous voulez, il faut que eux-mêmes soient là, pour que chacun soit dans sa parcelle pour qu'on puisse l'aider concrètement, mais nous le répétons, les conditions sont plus psychologiques. Vous savez, même là où ils sont, et comme le dit tout à l'heure l'élu de Congo, il faut organiser des élus d'abord, même comme il a dit de leur faire, pour qu'il aille là-bas, bavarder avec ceux qui sont là, les convaincre de la nécessité de rentrer. Évidemment, comme ils sont là, comme le président du Haut Commissariat a dit, ils sont dans des conditions épouvantables. Là, c'est le Haut Commissariat qui a cette obligation, d'abord, de nous aider, de leur fournir la logistique, et même de mettre en place un programme dans le domaine de l'éducation, parce qu'ils sont là. De la santé, des énergies, convenablement, ça me sort du domaine du Haut Commissariat pour les réfugiés. Vous savez, le statut juridique des réfugiés, comme il le sait, notre ami qui est là, est défini dans deux traités. La Convention 51 et la Convention de 67 de l'article statut des réfugiés. Donc, ils ont cette obligation, le Haut Commissariat, la communauté internationale, comme ils sont là, de les assister en toute autour. Alors, à partir de là, si ils sont bien nourris, ils sont bien logés, on les sensibilise, et je peux ajouter une autre chose, c'est que notre gouvernement, bien que nous rassure tout est maintenant ok au niveau de Dongo, mais doit multiplier, je dis, les visites comme le ministre de l'Intérieur le fait. Là-bas, moi, le Premier ministre, je se déplace avec une équipe pour conscientiser les réfugiés, les rassurer, courir avec eux pour leur montrer que là, la situation est calme. Donc, ce sont les opérations psychologiques, ce sont les opérations de conscientisation.
Merci, honorable. Simon Anglebert Louboukou, j'espère que la qualité de votre ligne s'est améliorée. Vous êtes en ligne?
Oui.
Voilà, vous étiez en train de dire, juste pour faire un pas en arrière, que les réfugiés vivaient dans une situation grave et très précaire.
Oui, les conditions de vie sont difficiles, parce qu'ils vivent soit dans la forêt, d'autres vivent dans des bâtiments publics, ils sont dans des écoles, ils sont dans des vieux sites des réfugiés, ils vivent vraiment dans des conditions difficiles. Il faut aussi savoir qu'il y a des besoins, beaucoup de besoins, et la logistique ne facilite pas les choses. Pour accéder dans les villages où se trouvent les réfugiés, il n'y a que la rivière Oubangui. Et bientôt, ce sera la saison sèche, le niveau de son bain descendant. La logistique ne facilite pas non plus les choses, donc les besoins sont multiples et les conditions de vie sont difficiles.
Et le sénateur Lokondo voulait se rassurer hein, si leurs droits sont respectés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Oui, le gouvernement congolais de la République du Congo a reconnu d'abord que c'était des réfugiés et nous avons commencé l'enregistrement de ces personnes et nous octroyons aussi des documents. Donc déjà, sur ce côté, il n'y a pas de problème. Et avec les autres agences des Nations Unies, avec le PAM par exemple, nous assurons la distribution de la nourriture, comme le sénateur l'a dit, avec l'UNICEF. Nous sommes en train d'étudier comment encadrer les enfants en âge scolaire. Donc, comment organiser les écoles et les encadrer. Donc, avec toutes les agences du système des Nations Unies et les ONG qui sont là, nous travaillons pour que ces réfugiés puissent quand même avoir une vie pas trop difficile, quoique les conditions soient pas très bonnes.
Mais quand vous dites que vous organisez déjà vous voulez organiser des écoles pour les enfants en âge scolaire, c'est que leur retour, ce n'est pas du jour au lendemain.
Non, leur retour, comme vous le savez, le retour est volontaire. Nous ne savons pas quand est-ce que cela aura lieu. Et il faut aussi savoir que les réfugiés, ils sont à la charge du pays qui les accueille. Le HCR vient appuyer, le HCR comme les autres agences de l'ONU viennent appuyer le pays qui accueille les réfugiés. Donc, ce n'est pas au HCR, le HCR va aider, va assister au moment où le rapatriement sera organisé, décidé entre le pays qui accueille et le pays originaire des réfugiés. Et pour l'instant, on ne peut pas laisser les enfants, par exemple, en âge scolaire, dans la forêt, sans occupation. Nous essayons de les occuper parce que l'éducation fait partie aussi des soucis des humanitaires.
Alors, le pays originaire, la RDC, dit que les conditions sont réunies pour que ces réfugiés puissent rentrer. C'est vrai que le retour est volontaire, mais d'après vous, pourquoi ils ne sont pas pressés de rentrer?
Ils ne sont pas pressés de rentrer. Je disais auparavant que la plupart sont des anciens réfugiés. Ils étaient réfugiés. Nous avons facilité le rapatriement depuis 2005. De 2005 à 2008, nous avons facilité le rapatriement. Ils sont rentrés. Nous les avons aidés à réintégrer la société. Ils s'étaient organisés. Ils ont eu des sémences, des itinéraires. Ils ont refait leur vie. Mais d'un coup, ils perdent tout et ils se retrouvent dans les mêmes situations. Le premier discours, c'est de dire que nous voulons être trop sûrs que les conditions sont vraiment bonnes pour que nous ne partions pas chez nous pour revenir encore en Libye. Donc, ça, c'est ce qu'ils disent. Et si le gouvernement dit que les conditions sont bonnes et ils peuvent rentrer, nous, au niveau du HCR, tout ce que nous pouvons faire, c'est faire la promotion. Quand les deux gouvernements se seront mis d'accord pour nous dire que voilà, nous sommes prêts à organiser ça, nous allons faire la promotion du rapatriement pour que les réfugiés prennent des décisions réfléchies par rapport à leur retour. Donc nous n'allons pas les pousser à rentrer, nous allons attendre les deux gouvernements se mettent d'accord, nous venons assister, et puis c'est ça. Donc pour eux, les réfugiés refusent de partir pour rentrer encore une fois en Libye.
Voilà, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écrivent, honorable Jean-Marie Gapé-Monoko, il est à Guémonga de Bouya en province orientale, dit pourquoi le gouvernement de la RDC se désintéresse des réfugiés congolais et laisse un président étranger s'en soucier. Mandé Justin de Manono Katanga dit les déplacés de Dongo refusent de rentrer en RDC pour la simple raison qu'ils redoutent encore des affrontements entre FRDC et Elema Enyele, que le gouvernement fasse tout pour les mettre en confiance. Francis Vissot de Goma au Nord Kivu. Je sais que les plans de rapatriement des réfugiés de la République démocratique du Congo se concrétisent rarement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur, par rapport à ces réactions des quelques auditeurs?
Non, effectivement, la situation dont la population est déplacée en terre de la reprise des hostilités, ça a été soulevé quand juste après la date d'après les hostilités du 10 octobre. Après les hostilités du 10 octobre, le ministre de l'Intérieur, en compagnie de son homologue, ministre des Affaires sociales, ils sont allés à Dongo. Ils ont lancé même un appel demandant à la population de regagner Dongo. Et la population avait réagi à chaud si peu pour dire que non, il ne faut pas regagner Dongo pendant que Ouzani n'est pas maîtrisé. Puisque Ouzani, c'est la tête, Ouzani, c'est lui l'animateur de ce mouvement. Et bien, et si aujourd'hui on n'arrive pas à maîtriser Ouzani, en tout cas, nous n'allons pas rentrer à Dongo. C'était la réaction à chaud de la population des déplacés. Et aujourd'hui, il y a un article qui s'ajoute encore. Les militaires, les éléments de la FARDC ont maîtrisé la situation, ont un contrôle absolu sur tous les secteurs de Dongo. Mais moi, je souhaiterais que ces contrôles, comme vient de le dire Célestier, l'intervenant de tout à l'heure, qu'il faut. Maintenant, les autres sont tentés d'étudier. La partie des enfants sont tentés d'étudier. Alors, si le gouvernement congolais pouvait ne fût-ce qu'organiser, ne fût-ce que les écoles primaires, et ça va exciter la population à gagner. Laissez-moi vous dire la vérité, à part les quelques civils qui sont à Dongo, mais tous les villages qui composent les secteurs de Dongo, il n'y a personne. Toutes les localités sont vidées. Il n'y a que nos éléments de la FARDC. Et parce que les pro-Ouzani, dans la plupart des cas, c'est le secteur de Dongo, est composé de 6 groupements. Si les 6 groupements, les 4 groupements sont composés par l'Obala, que vous appelez communément Ignele, et qui était derrière Ouzani. Et ces gens plus tangentes. Et quand les demandes de venir, ils croyaient que ça serait un guet-apens. Et c'est la raison pour laquelle nous sollicitons qu'il y ait d'abord une cellule psychologique pour leur dire qu'il y a un temps pour le deuil, un temps aussi pour la réconciliation. Mais cette réconciliation, on ne peut pas les lancer et comme on lance une pierre en distance. Il serait souhaitable d'approcher maintenant ces éléments et les victimes à partir de là.
Sénateur Henri Thomas Lokondo, deux autres réactions des auditeurs. Fikir Issaï dit Papi d'Ouvira en Sudbou. Pourquoi notre gouvernement n'assiste pas nos frères de Dongo qui sont au Congo-Brazzaville comme réfugiés alors que pour Haïti, l'argent a été vite débloqué? Aline Rizi Kikimong d'Ouvira encore au Sud-Kivu. Pourquoi nos gouvernants ne font pas allusion au retour dans le pays de nos compatriotes de l'Équateur qui se sont réfugiés au Congo-Brazzaville, mais ils s'intéressent seulement à ceux qui se sont réfugiés au pays voisin de l'Est de notre pays? Sénateur, brève réaction, je vous en prie.
Oui, donc pour ce qui concerne d'abord l'Haïti, je crois que c'est une question de solidarité humaniste. C'est aussi un geste symbolique de gratitude envers la communauté internationale qui nous a aussi aidés dans des moments très difficiles. Le plan humanitaire, il continue à le faire d'ailleurs. Je crois que c'est une invitation de voir la MNC assumer toujours sa vocation et son leadership au cœur de l'Afrique, même dans sa situation difficile actuelle. Mais puis les amis doivent savoir que même sur le plan coutumier, un frère ou un ami qui a un problème épouvantable à un moment précis bénéficie toujours de la compassion et de l'assistance, même de moins tandis que lui. Donc Haïti, c'est un pays qui pauvre que la RDC. Donc moi, pour moi, c'est un faux débat. $2,500,000 est une somme importante pour un ennemi d'eux, mais pour un État comme la RDC, je crois que non, il ne faut pas qu'on s'appelle trop malgré nos problèmes. Mais je voudrais en rapport avec la deuxième question, je voudrais réagir sur l'affirmation du responsable du haut commissariat pour le réfugié quand il dit que la logistique ne suit pas toujours. Cela me fait peur. Hein. Lui-même sait le rôle de commission qu'a joué le haut commissariat lors de l'exode des populations fuyant le Kosovo et le Timor oriental. Et puis récemment, il y a eu des opérations de l'Ouest où les activités de l'appartement en Afghanistan, c'est le haut commissariat qui a pompé de l'argent, qui a mis de l'argent sur la communauté internationale. Il ne faut pas qu'on se réfugie derrière des règles qui sont difficilement applicables. Le Congo lui-même a des problèmes épouvantables. Comme le président Sassou-Nguesso a dit, la province de Likwala a 100 000 ans, vous avez 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000, 100 000 1000 personnes réfugiées qui sont nées de la RDC. Donc, il ne faut pas qu'on affirme des choses comme ça parce que ça risque de peut-être.
Merci,
La situation des réfugiés de l'Est.
Très rapidement, je vous en prie.
Allô?
Très rapidement, je vous en prie, sénateur.
Oui, je disais que c'est une situation similaire. Je crois, comme j'ai dit tout à l'heure, les autres sont des nouveaux, ils doivent subir le même traitement, et la communauté internationale, le commissariat pour les filles, comme les autres partenaires, nous devons faire au Congo, Braga, avec les nos frères de Congo, ce que nous faisons, ce que la communauté internationale est en train de faire à l'est du Congo. Je vous dis, nous, le Sénat, nous avons déjà envoyé une mission d'évaluation. Après notre rencontre avec le président de la République, il y a une qui est là sur place, qui va revenir avec une évaluation, et on va s'impliquer pour que, et nous, le gouvernement central, et le gouvernement provincial, et nos partenaires, nous puissions s'impliquer pour que nos amis puissent avoir une situation heureuse là où ils sont, et qui rentrent rapidement, de façon volontaire, dans notre province, à Dongo précisément.
Merci, sénateur. Moins de 30% de personnes qui avaient fui les affrontements entre les insurgés Enyele et les FRDC sont retournées à Dongo depuis la reprise de cette localité par les FRDC. Même situation à Imessé, une autre localité qui avait connu des affrontements entre les forces loyalistes et les Enyele. Information livrée hier mardi par les humanitaires à la délégation de la MONUC conduite à Guémena par le général Babacar Gaye, commandant des forces onusiennes en RDC. Voici les notes de reportage d'Innocent Olinga qui était sur place.
Bien que les humanitaires rapportent que jusque-là des cas de violation des droits de l'homme de la part des éléments des FRDC et de la PNC qui contrôlent ces deux localités ne sont pas signalés, les populations ont encore peur. Contrairement à Bozélé, à 90 km de Guémena, où la population qui avait fui à la suite de la rumeur d'une éventuelle attaque des Enyele est retournée à 90% et fait confiance au casque bleu tunisien, les populations de Dongo et Imessé ne semblent pas être rassurées de la présence des casques bleus ghanéens déployés pour leur protection. Comment alors les convaincre que pour les retours, le général Babacar Gaye estime que la tâche n'est pas seulement de la MONUC.
Pour ce qui nous concerne, nous sommes des gens présents à Dongo. Notre présence, nous le pensons, comme notre présence à Bozéné, doit rassurer les populations. Notre présence doit également faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Donc vous voyez que nous essayons de contribuer autant que nous le pouvons, mais encore une fois, il n'y a pas que la MONUC qui a cette responsabilité.
Il n'y a pas que la MONUC qui a cette responsabilité, c'est pourquoi le général Babacar Gaye demande aux humanitaires sur place, en synergie avec les FRDC, déposer des actions persuasives en faveur de ces populations en vue de leur retour. Des retours de Guémena, Idosa Olenga, Radio Okapi.
Toujours en rapport avec Dongo, le programme alimentaire mondial est en difficulté pour acheminer l'aide dans cette localité de l'Équateur. 10 camions de vivres sont bloqués à Bozéné, 90 km de Guémena, depuis 5 jours. Pour cause, le pont à 55 km sur l'axe Bozéné-Dongo est coupé. Il s'est effondré au passage du camion d'un particulier il y a une semaine. Le responsable de PAM en Équateur estime que si ce pont n'est pas réhabilité rapidement, 40 000 déplacés dans la zone ne seront pas nourris. À noter que cette aide du PAM est le premier convoi en faveur de ces déplacés de Dongo. Simon Angelbert Luboukou, porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, vous avez suivi tout à l'heure le sénateur Lokondo qui semblait inquiet de vos propos d'après lesquels la logistique ne suivait pas toujours pour nos compatriotes qui sont de l'autre côté de Brazzaville.
Oui, j'ai dit que nous avions des difficultés au niveau de la logistique, c'est-à-dire il n'y a que la rivière Ubangi pour accéder au village où se trouvent les réfugiés. Et il faudrait que nous n'avions qu'un seul bureau à Ifondo, et depuis, on a ouvert un autre bureau à Betou pour justement faciliter l'accessibilité et l'aide humanitaire puisse, pour que l'aide humanitaire puisse arriver aux réfugiés. Notre problème, c'est la rivière. Nous avons des baleiniers, mais nous ne pouvons pas aller partout. Là où il n'y a pas d'accessibilité, on ne sait pas aller directement. Nous avions un bureau à Bouburu, dans la province de l'Équateur, mais notre bureau a été saccagé et pillé. On pourrait bien prendre le matériel, les véhicules, pour emmener à Ifondo et Betou, pour aller dans les villages où on pouvait aller par route, même si les routes ne sont pas en très bon état. Mais la logistique, vraiment, nous ne savons pas. Nous n'avons que des baleinières. Nous ne savons pas transporter des tonnes et des tonnes d'aide vers les villages. Donc, nous pouvons emmener une tonne, deux tonnes, alors que si nous avions des bateaux à grande capacité, on pouvait prendre des dizaines de tonnes pour aller vers les réfugiés. C'est un peu ça la difficulté que nous avons. Nous avons des moyens qui sont limités parce que nous n'avions qu'un seul bureau à Ifondo et c'est une situation d'urgence. On ne pouvait pas, du coup, comme ça, répondre à cette situation. Donc, nous essayons d'apporter l'assistance avec les moyens que nous avons. Dernièrement, nous avons eu l'assistance de l'armée française avec un gros avion qui a aidé à transporter des véhicules de Kinshasa, par exemple, jusqu'à Ifondo. Mais c'était une assistance ponctuelle. Entre-temps, c'est juste des petites quantités que nous pouvons transporter et ça prend beaucoup de temps pour aller vers les réfugiés. Il faut dire que les réfugiés sont sur une bande de 500 kilomètres dans des villages, sur une bande de 500 kilomètres, donc c'est pas aussi simple que ça.
Le HCR a-t-il reçu quelque chose du gouvernement congolais?
Au début, sans être porte-parole des gouvernements des deux Congos, au début, oui, nous avons eu l'assistance des deux gouvernements. Et il faut dire que l'assistance, c'est pas seulement le matériel ou l'argent. Je veux dire que nous avons eu cette assistance au début. Et les visites aussi, quand on parle d'assistance au niveau psychologique, les visites des autorités, c'est aussi une assistance des deux gouvernements.
Voilà, Jean-Marie Gapé-Monoko, vous venez de suivre Simon Angleber-Loubou, le HCR aussi travaille avec des moyens limités. Et ça ne présage pas, ça ne présage rien de bon pour l'avenir.
Effectivement, sans sincérité, quand il a dit que le gouvernement congolais intervenait, d'abord, laissez-moi, sans, à moins que ce soit un grand, de saluer d'abord l'initiative du président de l'Assemblée nationale, qui a répondu positivement à la délégation du Congo-Brazzaville, des députés du Congo-Brazzaville, sous la conduite du premier secrétaire équivalent du rapporteur de notre Assemblée nationale, pour leur confirmer que non, une délégation de députés serait dirigeantée s'il est lié, afin de simple d'évaluer la situation et parler avec la population. Il est vrai que la situation est compliquée. Plus de 107 000 habitants dans une localité où le budget n'a pas été préparé, il n'y avait pas quelque chose de disponibilité pour recevoir ces gens. Moi, c'est compliqué. Et ça risque encore de provoquer, et sans doute, avec les témoignages et les appels que nous avons des gauches à droite, ils nous confirment que les gens aussi continuent à mourir, les gens meurent aussi. Et parce que la sensibilité, d'abord, à peine, nous allons maintenant assister à l'étiage de la rivière Oubangui. Et si aujourd'hui, il y a l'étiage va prendre maintenant son pouvoir sur la rivière, et bien, nous allons assister à des morts et des morts. D'où je vais demander au gouvernement congolais de diligenter, de faire tout afin que la situation soit réglée en temps avant que les pièges puissent prendre le pouvoir sur la rivière Oubangui. Effectivement, ils sont appelés à aider à la limite de leurs moyens. Et bien, nous aussi, nous sommes appelés à nous préparer en conséquence pour faire que nos militants puissent regagner notre République comme le demande le gouvernement. La FARDC a fait son travail. La FARDC a fait chasser le temps des insurgés. Mettons sur la notabilité, mettons sur le gouvernement qui est appelé maintenant à s'organiser pour que ces gens puissent vite regagner le secteur de Dongo en général et la cité de Dongo en particulier. Voilà, c'est sans ma prière.
Honorable Thomas Lokondo, Wabelo de Matadi Obakongo dit le président Sassou a raison de décrier cette situation des réfugiés de Dongo dans son pays. En principe, nos dirigeants devraient se gêner de cette réaction et tout faire pour le retour de nos frères en RDC.
Mais nous l'avons dit, hein. Nous avons dit que le retour n'est pas forcé, le retour est volontaire, conformément aux lois internationales, hein. Et nous, et le président Sassou Nguesso, personne ne peut aujourd'hui obliger les réfugiés qui sont là de rentrer, hein. Il y a des gens là qui peuvent même avoir eu un travail là, ils refusent, ils disent, ne rentrent pas dans son pays, vous ne pouvez rien faire, hein. Si toutes les conditions sont réunies. En tout cas, c'est bien important, hein. Comme nous allons vers la fin de l'émission, je crois qu'on a tout dit. Il faut maintenant, ce qui est important, c'est de voir comment nous, avec l'eau, nous sommes pour les réfugiés au Congo, Là, nous devons mettre en place un programme post-conflit d'Ongo, et mettre un programme sur le plan de la mobilisation des ressources, parce que tout à l'heure, notre ami, peut-être qu'ils ont le souci, je ne suis pas, les moyens ne sont pas, mais c'est de l'obligation du Haut Commissariat pour les réfugiés pour mobiliser tous les partenaires du système des Nations Unies pour utiliser des moyens pour ce qui concerne le cas du particulier de Dongo. Il faut mettre en place un plan sur le plan particulier, parce que bon, Kika était tout là-bas, d'après les films que nous avons vus. Soit même si quelqu'un voulait rentrer, mais où dormir, il faut déjà un minimum d'un programme sur le plan infrastructurel. Sur le plan socio-économique également, comme l'a dit le député Gabé Monoko, il faut refaire quelques écoles, quelques hôpitaux pour que bon, la vie revienne sur le plan éducationnel. Et enfin, je ne cesse de répéter, il faut aussi tout un programme sur le plan psychothérapeutique. Parce que ces gens ont vu des choses qui les troublent. C'est pas facile, vous le savez, en Europe, où le vieux ça, quand il y a des troubles comme ça, vous avez suivi mon récit, vite on met en place des structures pour arranger la psychologie des gens qui sont troublés précisément. Donc il faut que ces éléments soient réunis pour que rapidement on puisse demander aux amis et aux frères qui sont à l'aube de rentrer dans une campagne de sensibilisation très bien huilée pour que la peur, plutôt que la confiance, combatte la peur qui les habite encore.
Merci, sénateur. Pouvez-vous déjà conclure en 20 secondes parce que nous tendons vers la fin de l'émission?
Et moi, je pensais que j'avais déjà conclu, mais bon, s'il faut dire quelque chose, c'est que bon, ce sont des situations qui arrivent, et ma conclusion, je vais la diviser plus que aux amis congolais, particulièrement au président Sassou Nguesso, qui a raison, mais bon, il doit savoir que tout ce que nous avons dit ici se fait avec le temps, pour donner le temps au temps, parce que le temps ne respecte jamais ce qui se fait sans lui.
Merci, honorable Simon Louboukou. D'après le sénateur Thomas Lokondo, vous devriez un peu secouer, hein, ou la HCR devrait faire un peu plus d'efforts pour mobiliser les ressources chez ses partenaires.
Oui, comme je l'ai dit, il y a le PAN, par exemple, qui fournit la nourriture, il y a l'UNICEF avec qui nous travaillons pour organiser l'école. C'est vrai, il y a la communauté humanitaire qui est sensibilisée, et nous essayons aussi de pousser, comme vous le dites, la communauté internationale pour avoir les moyens. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'appui ponctuel de la France, de l'armée française. Donc il y a cette demande et nous attendons que la communauté internationale, les donateurs puissent nous venir en aide pour assister les réfugiés.
Et le gouvernement congolais, bien sûr.
Oui, comme je l'ai dit, le gouvernement des deux Congo, le gouvernement de la RDC, le gouvernement du Congo Brazza, avait déjà apporté leur assistance au début de cette situation, de ces mouvements de fuite.
Alors, votre conclusion aussi, Simon Anglebert Louboukou.
Oui, par rapport aux questions des auditeurs et de tout le monde, le rapatriement, c'est la meilleure des solutions durables pour les réfugiés. Nous encourageons vraiment le rapatriement, mais le rapatriement est volontaire. Nous ne pouvons pas pousser les gens, ni forcer qui que ce soit à rentrer chez nous. Le rapatriement est volontaire. Nous sommes là avec les autres agences des Nations Unies, les ONG, pour apporter l'assistance. Et lorsqu'il y aura accord entre les deux pays, le pays qui accueille les réfugiés et le pays originaire, nous allons apporter notre assistance pour faciliter leur rapatriement.
Merci Simon Anglebert Louboukou, vous êtes porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Honorable Agapé Monoko, votre conclusion en 20 secondes.
Merci beaucoup. D'abord, nos compatriotes ne sont pas dans l'autre Congo, ils ne sont pas allés en pèlerinage. C'est à la suite des hostilités qui ont lié dans notre pays, ils ont traversé. Eh bien, il vient de parler, l'un des intervenants, il vient de parler que non, les rapatriements volontaires. Mais on peut les citer. Je demande seulement au gouvernement congolais d'exciter nos militants qui sont de l'autre côté à regagner Dongo, à regagner Congo, notre territoire. Puisque pour nous, ça constitue un manque à gagner. Et d'abord, avec l'épée qu'on donne aux réfugiés dans l'autre rive, ne peut pas assister à ce qu'un militant peut produire par ses propres mains. Je demande à ma population de regagner Dongo, à condition que les gens soient réunis.
Merci, honorable. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, ainsi qu'à nos invités d'avoir accepté de participer à cette émission. Kevin Kouté et Samuel Kachak ont préparé à cette émission. Sylvain Matundu était à la mise en onde sous la coordination rédactionnelle de Ben Kabamba. Alain Irung vous l'a présenté à la coordination technique. Sylvain Baogwere, au revoir.